le conflit Russie-Ukraine avec Guillaume Lavoie.
Bonjour Guillaume.
Bonjour Mario.
Alors, tu nous parles aujourd'hui de cette histoire d'un diplomate russe qui, diplomate de longue date, diplomate qui a travaillé pour Poutine des années durant et qui l'a décroché et l'a fait avec bruit.
Avec un certain fracas, oui. Dans un courriel qu'il a décidé d'envoyer à ses collègues et aussi à tous les médias. Alors, Boris Bondarev, un diplomate russe qui faisait carrière à l'ONU, c'est pas une... Mettons ça dans son contexte, je dirais, là, approprié. C'est pas une démission qui va ébranler le régime. Là. C'est pas Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, qui est un proche de Poutine, un pilier du régime qui s'en va. C'est un fonctionnaire qui claque la porte avec les conséquences qu'on peut imaginer. Ceci étant, on n'a pas besoin d'en faire un ange non plus. Là. On imagine qu'il n'a pas été nommé à l'ONU juste sur la base de sa compétence. On peut pas avoir un régime complètement organisé par un certain favoritisme et un peu de corruption. On s'imaginait qu'il y en a juste un là-dedans qui était parfaitement honnête. Ceci étant, dans sa lettre de démission, ou tout sa critique, il y a des informations intéressantes. Trois, entre autres. Un, il confirme l'idée qu'on dit pas tout au patron. Puis pas juste au patron, là, à l'ensemble des étapes. Là. C'est-à-dire, il dit, nous, les fonctionnaires, on faisait des rapports à nos niveaux hiérarchiques supérieurs. En se posant la question, ils vont-tu aimer ça quand ils vont lire ça? Donc, on ne dit pas toute la vérité, ça peut déplaire. Et à l'inverse de ça, le vrai bon conseil, on dit en anglais, parler la vérité au pouvoir, speaking truth to power. Es-tu capable de dire à ton patron des nouvelles qu'il n'aimera pas? Maintenant, on dit que non, en Russie, à tous les niveaux, la nouvelle vers le haut, c'est tout est très bien. Hein? Il n'y en a pas de problème, c'est correct. Donc, ça va bien. On va être accueillis en héros en Ukraine, on voit venir la chose, là. Après ça, il dit, ça va vraiment mal en Russie. Il le confirme, là. Corruption massive. Il y a essentiellement une petite classe de dirigeants, des kleptocrates, des oligarques, qui n'ont qu'un seul but, qui est de se maintenir au pouvoir. Et comme ça va très, très mal, ben, il faut distraire. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, il faut créer, penser au film Wag the Dog, par exemple. Ben, comme ça va très mal au local, ben, je vais m'inventer un ennemi ailleurs. Vladimir Poutine avait déjà joué dans ce film-là il y a 8 ans de ça. Ça allait pas bien. Décide d'annexer la Crimée. Il passe pour un héros national. Alors, c'est un peu ça le plan. Ça va pas bien à l'interne. Ça va pas bien économiquement.
Alors, sauf que cette fois-ci, ils sont dans une guerre, ça va pas bien encore, là. Je veux dire, la guerre va pas bien, puis l'économie du pays va pas super bien à cause de la guerre. Je sais pas si le pari est... La distraction est là, là, ça j'en conviens, mais je sais pas si le pari est gagné.
Ah non, là-dessus, c'est un échec monumental. Il dit, le fameux fonctionnaire, il dit, ils se sont trompés sur tout. L'analyse, la durée, les forces requises. C'est comme si quelqu'un avait, voici un plan de comment ça va se passer en Ukraine, puis 100% des choses que tu mets dans tes bullet points, tu te trompes. Ça ressemble à peu près à ça, le plan russe en Ukraine.
Enfin, à suivre. Autour de l'Italie de proposer ou de suggérer son plan de paix.
Oui, un plan en 4 étapes. Vous allez voir pourquoi ça me fait rire un peu. Ah, ben, c'est correct, là, tout le monde s'essaye. Alors, eux, ils ont un plan en 4 étapes. Un cessez-le-feu. Après ça, que l'Ukraine demeure un pays neutre, mais qu'il y aurait des garanties de sécurité données par d'autres pays, mais ça, c'est pas clair. Des plans de négociation séparés pour la Crimée ou l'avenir de la Crimée et du Donbass. Et là, l'idée, ce serait de donner à ces deux territoires-là une très grande autonomie par rapport au gouvernement ukrainien, mais que ça resterait territoire ukrainien. Ça, c'est un peu intéressant comme formulation. Et après ça, un accord Union européenne-Russie pour faire des retraits de troupes russes en séquence, là. Et là, soyons gentils, c'est bien que tous les pays s'essaient en disant quelle pourrait être ma contribution à un plan de paix, mais il n'y a vraiment rien de nouveau fondamentalement là-dedans. Alors des fois, on soupçonne, est-ce que quelqu'un qui essaye de se dire, peut-être que je serais un excellent candidat pour le prix Nobel de la paix, là. Pourrais-tu me mettre dans l'écran un peu? Mais il y a des leçons là-dedans et des choses qu'il faut garder en tête. D'abord, que l'accord avec la plus grande chance de réussite est probablement un accord où les deux camps Ukrainien et Russie serait probablement un peu insatisfait. S'il y en a un qui a tout, ça veut dire que l'autre a rien, ça veut dire que tu n'auras peut-être pas d'accord.
Et ben, c'est-à-dire que ça, ça arrive, un accord où un a tout et l'autre a rien, ça arrive quand la guerre se rend jusqu'au bout, qu'elle prenne 3 ans, 5 ans s'il faut, puis qu'il y a un vrai gagnant puis un vrai perdant à la guerre, là, c'est de même, ça finit. Le perdant cède.
C'est ça. Et là, ça, je pense pas vraiment que ni l'Ukraine, même avec toute l'appui du monde occidental, serait capable d'amener la Russie. Pour ça, il faudrait se rendre aux portes du Kremlin. Et là, on n'est pas sur cette trajectoire-là du tout. Mais il y a une leçon là-dedans, probablement dans ce qui pourrait ressembler à, appelons ça au moins, la fin des hostilités, c'est qu'on est beaucoup dans une logique presque binaire. Il y avait la guerre, il y a une date, puis après ça, il y a la paix. On pense que la Première Guerre mondiale, c'est comme ça, on a une date en tête. La Deuxième Guerre mondiale, on a parlé, c'était le 8 mai. Le 8 mai au matin, on était en guerre. Le 8 mai au soir, on était en paix. Ça se passe jamais vraiment tout à fait comme ça. Souvent, ça se fait sur plein d'étapes très longues. C'est un processus incrémental. Il y a un cessez-le-feu dans telle ville. Et puis après ça, là, aujourd'hui, on sort les troupes de tel autre endroit dans le pays. Et c'est là qu'on se rend compte que probablement qu'une solution quelconque pour la fin des hostilités, ça va prendre quelque chose en étapes comme ça.
Ouais. Mais t'as vu, les Ukrainiens, ce qui peut paraître étonnant, c'est qu'à ce point-ci, là, les Ukrainiens, là, sont pas en faveur de la fin de la guerre. C'est-à-dire qu'ils voudraient bien que la guerre s'arrête, mais ils sont pas en faveur de tout compromis où il faudrait céder. Les Ukrainiens, le peuple, à 80-quelques%, a dans la tête, on va gagner cette guerre, on va sortir les Russes à coups de pied à mauvaise place, puis il n'est pas question de leur donner des tranches de notre territoire ou quoi que ce soit. Donc, on n'est pas dans une... Du côté ukrainien, on n'est pas dans une logique de compromis puis d'acheter la paix. On souhaiterait la paix, on aimerait la paix, mais on va pas donner des languettes de notre territoire pour l'obtenir. Ça paraît clair, clair, clair.
La ligne ukrainienne a beaucoup évolué. Au début de la guerre, même le président Zelensky avait dit, j'en revenais pas, il a dit, ben là, on comprend que dans le Donbass, là, il va rester une présence russe, etc. Ça, c'était au tout début. Mais après, tous les sacrifices, imaginez, là, quand t'as enduré tout ça, tu te dis, c'est pas vrai, à un moment donné, tu finis par dire, j'ai tellement sacrifié que c'est pas vrai que je vais laisser l'autre gagner. Et là, maintenant, la ligne ukrainienne, c'est il n'y a pas un pouce carré du territoire ukrainien qui va être cédé aux Russes. Et il y a un bout là-dedans qui renforce la ligne ukrainienne, c'est l'appui du monde de l'Ouest. Par exemple, encore en fin de semaine, 20 pays, surtout occidentaux, se sont engagés à fournir encore plus d'armes à l'Ukraine. Alors ça fait majeur. Et par exemple, la République tchèque, on va vous donner des hélicoptères d'attaque. On va vous donner des chars d'assaut. Le Danemark vient de dire, on va vous donner des missiles anti-navires parce que nous, on en a pour protéger les côtes. Donc, ils sont montés sur camions. Alors maintenant, les navires russes vont être encore plus en danger. Alors, ils se mettent là-dedans. Ça va être très, très, très difficile, mais t'es jamais plus fort que tes lignes d'appui. Et c'est ça qui ont l'air de bénéficier présentement.
Et tu vas, dorénavant, le mardi, nous parler d'un pays, là, un des pays de la zone qui a un rôle à jouer. Aujourd'hui, c'est un pays un pays pas si connu, qui est rarement dans l'actualité, sinon dans les résultats d'haltérophilie aux Olympiques. C'est la Bulgarie.
Oui, alors ça va être notre pays du mardi. Aujourd'hui, c'est la Bulgarie. Alors, Bulgarie 101, historiquement proche de la Russie, ben oui, dans le fameux bloc de l'Est. Géographiquement, c'est juste à l'ouest de la mer Noire, entre la Grèce et la Turquie au sud, la Roumanie au nord. 7 millions de population, à peu près comme le Québec, juste un petit peu moins. Un PIB par habitant, ça c'est intéressant, d'à peu près 10 000 $. C'est le plus faible de l'Union européenne. Alors, pour comparaison, là, ici au Canada, c'est 4 à 5 fois plus. Donc, c'est presque le pays le plus pauvre de l'Union européenne, membre de l'Union européenne depuis 2007. Et pourquoi est-ce que je vous en parle? C'est que même si c'est le plus petit, c'est probablement un des plus braves. Hein? Tout de suite, sanctions économiques imposées à la Russie, réparation de matériel, sont devenus un peu le garage de l'armée ukrainienne à plein d'égards, en disant « amène-moi là ton char d'assaut, je vais te le réparer ». Expulsion des diplomates russes. Vous savez l'affaire où le Canada hésitait, là, à savoir quoi penser. Eux, c'est dehors tout de suite. Malgré que, le courage n'est pas gratuit dans le cas de la Bulgarie, ils sont hyper dépendants aux énergies russes. 90% du gaz naturel vient de Russie, le pétrole également. Et en comparaison, vous avez la Hongrie qui est à côté, qui, elle, essaie d'être le meilleur élève de Vladimir Poutine. Et ça, il y a une espèce de redéfinition de la carte géo-énergétique. Eux, ils ont été les premiers à être... Vous vous souvenez quand Vladimir Poutine a décidé de couper un pipeline la première fois? C'était envers la Pologne et la Bulgarie. parce que ça faisait très mal. Alors, en disant, parce que c'était presque insultant pour Vladimir Poutine, attendez, là, le pays le plus pauvre d'Europe, celui qui est hyper dépendant de mon gaz, se permet de me narguer. C'est pas vrai que je vais endurer ça. Et là-dessus, ils se sont vraiment, là, de la Bulgarie, c'est devenu presque la clé de l'avenir pour avoir un autre pipeline qui, lui, irait chercher le gaz, par exemple, en Azerbaïdjan, complètement à l'est, et tout ça passerait par la Bulgarie. Et la leçon dans tout ça, pourquoi je vous parle de la Bulgarie, c'est que même s'il est très petit et très pauvre, qui résiste, ça, c'est la leçon qui devrait terrifier Vladimir Poutine quand il s'endort le soir. Et là, c'est une citation que je vais paraphraser du premier ministre bulgare. Si le pays le plus pauvre d'Europe, celui le plus dépendant à l'énergie russe, se permet de tenir tête à la Russie, imaginez qui d'autre pourra pas le faire. Alors là-dessus, quand le plus petit puis le plus dépendant se dit « moi, je vais tenir tête, c'est pas vrai que je vais céder », tous les autres pourraient pas être plus complaisants à ce moment-là. Alors ça donne l'idée, en tout cas le message à Vladimir Poutine, c'est sûr que ça va pas bien mes affaires et je vois pas comment je vais gagner.
Par contre, la Bulgarie a bien fait son lit dans le sens que dans l'Union européenne, même s'ils sont un joueur un peu à l'extrémité, à l'autre bout, à l'est, qui amène pas énormément de richesses, qui est le joueur le plus pauvre, ils deviennent pas un chouchou, mais presque. Ils deviennent dans l'Union européenne un pays fort respecté, en fait, plus respecté peut-être que son poids réel dans l'économie, compte tenu de ça. Là, je pense que c'est un peu là-dedans. Ils ont investi à long terme dans une relation privilégiée avec le reste de l'Europe.
Il faut savoir, le leadership, c'est aussi de prendre avantage des crises, puis comment tu te comportes face à des crises. Et le comportement de la Bulgarie, surtout parce que dans l'autre pays dans la région important, c'est la Hongrie. Et là, vous avez le pire élève. Puis là, l'autre, il dit, ben moi, je vais vous montrer que je suis capable d'être le premier de classe. Alors, en même temps, ils envoient au nom de l'Europe un message très fort à Vladimir Poutine. Puis en même temps, un message très fort à Bruxelles en disant, si vous voulez quelqu'un qui veut jouer selon les règles de l'Union européenne, solidarité avec les autres, même si moi, ça me fait plus mal qu'à vous, c'est moi votre meilleur joueur. Bon coup de la Bulgarie.
Guillaume, merci beaucoup. À demain.
Au revoir. Plaisir.